Alors celui-là, il joue du tambour et il interprète un cha-cha-cha. Alors les chats de ciné, ça date des années 50. Il a lancé ça suite à une soirée avec Léonore Fini. Ils avaient ri sur le thème en transformant des tas de mots à consonance chat, chapeau, château, Chateaubriand, chat rabia, etc. Chatterton, il y en a des centaines. Et à la suite de cette soirée, ils ont commencé à s'envoyer des cartes postales. Et Ciné dessinait à chaque fois pour Léonore Fini un chat qui jouait du cha-cha-cha ou qui faisait du.
Celui-ci.
Alors, et je vais regarder l'autre, waouh! Chat rogne. Et là, c'est un flic. Et c'est. Ah, ça, c'est historique. J'ai jamais vu ces objets-là. Ils sont magnifiques. Ah, ils font en plus, ils font. C'est un flic qui siffle par son derrière, finalement, parce que le sifflet est
C'est pas magique, ça?
dans son anus. Ciné était un génie, on s'est rencontrés, c'est un peu mon pote, mon maître, il me manque, je dessine toujours dans le journal qu'il a créé, Ciné mensuel, et alors il y a aussi dans cette boîte une édition, en une des dizaines d'éditions différentes de portées de chats de ciné, ben voilà, avec chat rançon, avec chat Terton, avec chat de Perse, avec chat dans la gorge, etc. Et chaque fois, il trouve une astuce graphique pour créer un chat. Je vous le refais encore pour le plaisir de tous. Mon père avait beaucoup d'admiration pour lui et il lui a un jour demandé, début des années 60, de lui créer l'affiche d'un film que mon père distribuait.
Non.
Et il lui a proposé de venir à Bruxelles, ils se sont rencontrés. Plus tard, Ciné me racontera qu'il ne se souvenait pas très bien de mon père, mais il se souvient du restaurant où il l'a emmené dîner. C'était chez Doginé, qui est un grand chef qui travaillait à Bruxelles et qui proposait une carte uniquement cuisinée à la bière. Bref, Ciné et mon père s'entendent bien, il lui dessine l'affiche, c'était pour la soupe au canard des Marx Brothers.
Oh, Your Excellency, I must speak to you.
I'll see you at the theater tonight.
Et moi, cette affiche que j'ai encore, je l'ai eue punaisée au mur de ma chambre quand j'étais môme. Donc j'ai ce dessin de Ciné dans ma chambre d'enfant, qui me marque au fer rouge. Et puis je connais le travail de Ciné. Mon père le lit passionnément, donc forcément. Je regarde dans les livres que mon père regarde. En fait, Ciné se met en danger politiquement parce qu'il affronte le général de Gaulle, parce qu'il rue dans les brancards, parce qu'il prend la défense des Algériens qui se battent pour leur liberté. Il cache même dans sa chambre et dans son appartement un Algérien qui va devenir plus tard un grand ministre du Nouveau Régime et qui va commander à Ciné, par reconnaissance, il va commander de créer le logo et toute la charte graphique de la grande compagnie pétrolière nationale algérienne. Et Bob Ciné va dessiner même les casquettes des mecs qui servent à la station-service, les uniformes, les grands tankers de pétrole, etc. Et puis, un jour, je reçois une lettre chez moi de Ciné via mon éditeur. Et en fait, il dit: Salut, j'ai découvert ton chat. Et j'avoue que j'ai rarement autant ri en lisant le bouquin d'un confrère. Alors, chapeau.
Chapeau, drôle ça.
Oui, chapeau, il ne fait pas. Je ne sais pas s'il dit chapeau, mais en tout cas, bravo, j'adore. Si tu passes à Paris, un de ces quatre, fais-moi signe, on ira boire un coup ensemble. Lui ne fait absolument pas le lien avec mon père. On passe à Paris, et puis on l'invite à déjeuner, il arrive en scooter, et on passe un moment délicieux, et on devient amis pour la vie ce jour-là.
Mais ce dessin-là n'était pas dans la Bible selon le chat que vous avez envoyé au pape.
Non, il y en avait des pires. Il y en avait des pires. J'ai réécrit toute l'histoire de l'Ancien Testament que j'ai envoyé au pape, j'ai dédicacé et j'ai reçu une réponse.
Il faut reconnaître que Philippe Gueluc, il sait vendre ses bouquins et quand il envoie des bouquins aux journalistes, il y a quand même toujours, et là je ressors, c'est Cascade Land, cet album-là, l'accroche promotionnelle est quand même hyper balèze. Car quelle ne fut pas ma surprise quand je reçois donc cette rumba du chat. Et dans la. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas le quatrième de couverture, c'est la page.
Alors c'est sur la page titre. La page titre, c'est la page numéro 1, qui comporte encore une fois le nom de l'auteur, au cas où on ne l'aurait pas lu sur la couverture. Le titre de l'album, pour être bien certain qu'il a été broché correctement. Le nom du coloriste, Serge De Haas, qui est le coloriste le plus cité dans la BD. Et puis, le chat qui danse avec une grande blonde et qui lui dit « Vous savez que je connais personnellement Jean-Marc Panis ?» Et la fille lui répond « Et moi, je crois que vous vous vantez un peu. »
Mais ce qui est absolument extraordinaire, et là, je me permets de remettre le micro chez vous.
Oui, c'est que c'est imprimé dans le livre. Et il y a un de vos confrères, ou un de tes confrères, qui a cru que c'était dans tous les livres, dans les 280 000 livres imprimés. Il s'est dit, mais enfin, c'est trop gentil de la part de Philippe. Et puis, il y a un autre qui lui a dit, non, mais moi, j'ai mon nom aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une édition personnalisée. Et ça a été rendu possible par un imprimeur de Liège qui s'appelle Snell, qui est venu me voir en disant, vous savez, on est capable de faire ça maintenant. Et donc, en accord avec mon éditeur Casterman, on a fait ça pour les amis et les journalistes, et certains qui sont journalistes et amis. Et donc, j'ai mis ça. Et alors, il y avait un piège, évidemment, dans cette édition, c'est qu'à la page 30, il y avait une autre citation au bonhomme en question, et à la page 48 également. Et ce qui est fabuleux et à la fois désespérant, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne s'en sont pas rendus compte. Alors que, évidemment, ils ne peuvent pas lire tout ce qu'ils reçoivent, ce serait impossible. Mais ils pourraient au moins ouvrir le livre de l'auteur qu'ils reçoivent dans leur émission. Et je te jure que j'ai vécu des drames sur des plateaux de radio, ou des studios de télé, des plateaux de télé ou des studios radio, où le type me dit « Ah bon, il y a une édition personnalisée ?» Je dis « Oui, mais ouvrez le livre. » Et puis, bam, il voyait le truc. Donc, il n'avait pas ouvert le livre. Alors, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais j'essaye à chaque fois de trouver une astuce différente.
Tu te mets un doigt dans la nuque et tu fais l'avion, Philippe.
J'épine le chien de Michel Drucker et je caresse le géant vert.
Oui, bravo.
Toujours regarder le verre à moitié plein. C'était le conseil d'un Jésus crucifié mais optimiste du générique fin de ce film que plus personne n'oserait faire aujourd'hui, La vie de Brian des Monty Python. Dans son genre, notre Belge bien barré du jour, Philippe Geluck, et ses acolytes en ont osé des choses sur les antennes de la RTBF, comme dans le jeu des dictionnaires avec un certain Jacques Mercier et une bande qui n'avait froid nulle part.
Que trouve-t-on dans une famille sur quatre en Belgique ?
Un cocu.
Non, ça c'est dans une famille sur deux.
Que soit le jeu du dictionnaire, que soit le lollipop avant, c'est quand même des expériences bien barrées. Et c'est là que j'arrive, bam, 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 je retombe sur mes. Parce que la séquence s'appelle Les Belges bien barrés, BBB, B au cube. Quand on voit Philippe Geluck, ça a l'air d'être un garçon hyper structuré comme ça. Et en même temps, il a été pas toujours à l'origine, mais il a fait partie quand même des moments les plus délirants, je pense, de l'histoire de la télé. Prenons que celle-là de la télévision, avec le jeu dictionnaire, avec l'Olipop, avec les imbuvables. C'est quoi le regard qu'il porte aujourd'hui là-dessus ?
Un regard amusé. C'est quand je revois une archive et que c'est bien, ce que je vois est bien, je ris.
Auguste Herbin, compositeur wallon. Né à Serein, mort à Charleroi en 1988.
Coucou, gamin.
Comme un téléspectateur lambda, je vois, j'ai revu comme ça des jeux d'électionnaire télé. L'autre jour, je suis...
Avec un casting de dingue, hein.
Bah oui, il y avait Soda, il y avait Jean-Jacques Jespers, Marc Moulin, Jean-Pierre Autier, Monsieur Météo, Roger Laboureur, truc, c'est magique. J'ai l'impression que quand on a fait la semaine infernale et le jeu des dictionnaires à la radio, c'était aussi magique que les Beatles. C'était des personnalités totalement différentes, réunies sous la houlette de Jacques Mercier, et ça donnait des moments absolument magiques.
C'est moi, bonsoir tout le monde.
Papa, c'est atroce, maman reçut le four micro-ondes.
Je sais, ma fille, c'est moi qui lui ai offert pour son anniversaire.
Mais non, maman reçut le four micro-ondes sur la tête.
Et même chose dans l'Olipop, cette réunion de quatre personnalités, il y avait Joël Smets, Robert Lemaire, Patrick Chaboux alias Malvira et moi, et ça faisait des étincelles.
Oui, bah, Philippe, je suis, écoutez, je n'en reviens pas, je pars quelques jours.
Oui.
Et me voilà mère de famille nombreuse.
Mais je sais, vous partez quelques jours et je couvre des œufs.
Ben bon. Oui.
Mais bon,
maman.
Il est là.
Oui. Ben oui, il est là.
Maman, il les mange, papa.
Et avec Patrick, quand on se revoit, c'est lui que je revois surtout, quand on se revoit, mais au bout de 5 minutes, on se roule par terre de rire, parce que ça repart comme en 14.
Expression délicate, hein, ça repart comme en 14.
Oui, mais alors on dit toujours, beaucoup de gens ont dit ça repart comme en 40, non, mais on le disait en 14 parce qu'il y avait eu la guerre de 70, les Français, pour les Français c'était la guerre de 70, et on a dit ça repart comme en 14. Et espérons que ça reparte plus, hein, c'est bien comme ça, trois fois c'est bien. Enfin c'est bien, c'est pas bien, mais trois fois ça va, voilà, il suffit.
Et quelques tomates pelées. Allez. Du ketchup. Mettez-en vite. Un téléphone.
Et donc, avec Jacques Mercier, pareil, on vit encore maintenant nos moments de fou rire homériques les plus délicieux du monde, et c'est à chaque fois qu'on se voit. Donc, il y a une magie dans la réunion de certaines personnalités.
Merci, docteur G.
Il n'y a pas de quoi, mon vieux.
Pourquoi je dis ça? C'est parce que... des Beatles, Monty Python, etc. On a évoqué ces noms-là. Et c'est vrai que ça fait partie des moments complètement barrés de l'histoire de notre audiovisuel public. On a bousculé les tabous, aussi bien dans les émissions pour enfants qu'après à la radio. Et puis, alors, ça fait partie de moi intégralement. C'est-à-dire, je suis effectivement peut-être quelqu'un de structuré, puisque je travaille sérieusement.
Cher docteur G, je suis maladroit. Je rate tout ce que j'entreprends. Des choses les plus compliquées aux choses les plus simples.
Quand j'écrivais mes Docteur G le jour même de l'enregistrement, hein, j'écrivais tout le jeudi, à partir du jeudi matin.
Oui, l'artiste travaillait sans filet.
Oui, mais même chose, quand j'étais chez Drucker, j'écrivais tout le mercredi matin, alors qu'on enregistrait le mercredi après-midi.
C'est comme le chien, il retrouve sa place, tout seul, moi aussi.
C'était ta place ici pendant 7 ans.
Exactement, un septennat.
Un septennat, quand même.
Un septennat entier.
Je me suis toujours mis cette... Et pourquoi? C'était pour pas me mettre la pression en amont. Je me dis, si je commence à travailler le vendredi pour le mercredi d'après, ça va m'occuper la tête le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi. Donc, je faisais le vide et je me disais, mercredi matin, j'attaque. Pour la radio, jeudi matin, j'attaque. Je faisais d'abord mon Docteur G et puis les 5 émissions du jeu des dictionnaires avec toutes ces fausses définitions que je devais inventer. Et là, je sais pas, il y a un truc, un petit cliquet qui bouge dans ma tête. Et là, la folie furieuse envahit mon cerveau.
C'est-à-dire, on va vous parler franchement, Monsieur Breskovic. Comme on ne vous voyait plus dans l'immeuble, on pensait que vous étiez décédé.
Oh, vous êtes caustique.
Est-ce que ça arrive souvent, j'imagine, quand on est Philippe Gueluc, un truc qui doit être, je ne sais pas, comment il le reçoit, une sorte de réunion avec des gens, et on dit « Ah, bah, Philippe Gueluc, fais-nous rire !»
Non, c'est compliqué. Je sais que des confrères ou des gens ont vécu ça. Il y a des gens qui l'ont vécu douloureusement parce que... ayant la réputation d'être un homme d'esprit, ils étaient invités à un dîner et puis l'assemblée attendait que le type sorte des énormités qui fasse rire tout le monde. Et je ne sais plus qui raconte ça et il dit à un moment, je sentais bien que les gens attendaient quelque chose, mais il dit j'avais pas du tout envie, j'étais pas inspiré. Voilà, je pouvais aussi vouloir vivre des moments un peu normaux dans l'existence. Et il dit à un moment, j'ai demandé à quelqu'un, pouvez-vous me passer le sel? Et tout le monde a éclaté de rire. Alors il faut pas tomber dans ce piège-là, évidemment. Donc je sais pas. Honnêtement, je n'ai jamais posé la question à des gens qui me recevaient et qui ne sont pas des intimes. Est-ce que vous attendez vous attendez à ce que je sois drôle? Est-ce que vous espérez que je sois drôle? Je ne sais pas. Mais le plus souvent, je le suis naturellement. C'est-à-dire que j'ai un côté sale gamin, un côté insolent, mais toujours tendre. Je ne vais pas mettre des gens mal à l'aise lorsque je suis invité chez eux.
20 minutes, c'est plus qu'il n'en faut. La cuisine est propre, on peut passer à table. Tu vas m'en dire des nouvelles. Tu nous sers le vin. Et voilà. Pardon. Bon appétit. Santé.
Mais je vais essayer de faire rire, parce que je ne peux pas m'en empêcher, parce que tous les matins, je fais rire ma femme au petit déjeuner avec, je sais pas, des quelque chose qui me vient à l'esprit, une pitrerie, et elle rit toujours, après 43 ans et demi de vie commune, elle rit toujours, donc visiblement je me renouvelle, et je fais rire mes petits-enfants, j'essaye d'être amusant tant que je peux, mais je peux être grave aussi, hein.
Alors les gros, les roux, les femmes, les handicapés, les juifs, les arabes, les pauvres, les malades, les cons, Philippe Gueluc s'est moqué de tous ces gens. Qu'est-ce qui est le plus difficile ?
Non, je m'offre la possibilité de tirer absolument sur tout le monde. Mais quand je dis tirer, c'est avec des fléchettes, c'est jamais avec des flèches qui transpercent, c'est avec des petits trucs à ventouse comme ça. Donc je pense que la tendresse qui est en moi, là, je suis le type le plus, comment dire, je pense le moins raciste, le moins homophobe, le plus féministe. Et donc, je m'autorise à rire de tout et de tout le monde. Parce que j'ai aussi souvent ri de moi-même.
Me cherchez pas sur la calvitie, je préfère avoir sur la... Laurence. Je préfère avoir sur la tête une fesse que deux comme vous.
Je me livre à l'autodérision à travers le chat ou en direct par moi-même en jouant le con. Et du coup, je me dis que ça me donne un passeport pour rire de tout. Alors, il faut tout de même faire très attention pour l'instant parce que des flèches tirées amicalement peuvent être mal prises. Pour l'instant, beaucoup de sujets deviennent un petit peu touchy. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose qui est la politique, où là, je décoche des flèches qui, j'espère, peuvent faire mal. Quand je fais un truc sur Trump, j'ai pas envie d'être tendre ni douceureux. Il mérite pas mieux, il nous chie à la gueule, donc on doit le lui renvoyer. On va forcément arriver à la religion. Et la religion est tout de même un sujet extrêmement sensible, en tout cas certaines religions. Alors, j'ai continué à faire des dessins, après les attentats de Charlie, j'ai continué à faire des dessins sur toutes les religions. Tout le monde doit être servi. Et il y a un seul tabou pour moi, et je ne l'ai jamais fait avant les attentats, ni avant ni après, c'est par exemple représenter le prophète des musulmans. On sait, comme ça a été mal pris, et c'est un euphémisme de le dire. Voilà, je le fais pas, je le ferai pas. J'ai pas envie de faire de la provocation là-dessus, d'abord parce que j'ai jamais trouvé de choses vraiment drôles sur le truc, et que il y a une communauté qui le prend comme une insulte personnelle, comme un acte, comme un crachat à la figure. Et j'ai pas envie de cracher à la figure des gens. Et en plus, c'est pas de la lâcheté, mais j'ai pas envie, je vois pas pourquoi je mettrais ma vie en danger en faisant un truc comme ça pour me faire descendre par un type un peu énervé. Donc ça, je le ferai pas. Et ça veut pas dire que je ne peux pas m'exprimer sur le fanatisme, sur les gens qui veulent imposer une loi divine à d'autres. Là, je continue à m'élever contre ça et à le dire haut et fort et à dessiner là-dessus. Et voilà. Donc, il y a juste un sujet que je vais éviter. Et puis, tous les autres, j'arrive à les traiter avec assez de clarté, je pense, pour que les personnes qui pourraient être concernées ne se sentent pas offusquées, mais rient avec moi.
J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde.
J'essaye de proposer de rire avec plutôt que de rire contre, sauf contre les méchants, les violents, les assassins, les cons, les imposteurs, les dictateurs, les terroristes, etc. Ça, forcément, je peux rire contre eux.
Il y a d'ailleurs dans le « Peut-on rire de tout ?», un truc que je vais conseiller, ce sera peut-être nos conseils de cette semaine d'ailleurs, c'est une liste pour savoir si on est un gros con, facho ou pas. Si on a répondu X fois oui, on l'est. Alors, on a... Une bonne journée surtout.
Bonne journée à tout le monde. Et à tout... Non, mais il n'y a pas ce genre de personne qui nous écoute. Hein. Vous faites une émission de qualité et qui est écoutée par un public absolument délicieux et délicat.
100% confrit.
Oui, confrit. Il faudra trouver. Voilà, c'est un concept que je trouve intéressant de développer, mais je ne peux pas vous donner la solution non plus. C'est un métier tout de même. Donnez-moi une matinée au moins.
Si vivante, un morceau d'un certain Chance qui, en néerlandais, se dit Gueluc. De là à penser qu'Antoine Chance serait le fils de Philippe Gueluc, il n'y a qu'un pas que je vous laisse le soin de franchir ou pas. La semaine prochaine, c'est le duo Juicy qui sera avec nous. Ça promet d'une part des étincelles et d'autre part des paillettes. Belge et bien barré en somme. D'ici là, ne bougez pas. Juste après le journal, c'est avec le fantôme de la radio que vous avez rendez-vous sur la première.